Bonsoir Eric et merci pour l'invitation et bonsoir à tous les auditeurs. Je pense qu'en 2024, plusieurs secteurs économiques en Afrique ont montré une dynamique croissante, contribuant non seulement à la croissance économique du continent, mais aussi à l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Le premier secteur, à mon sens, c'est la technologie et les innovations. L'Afrique a vu un essor considérable dans le domaine de la technologie, avec des startups émergentes dans les fintech, la santé numérique, l'agritech et l'éducation en ligne. Ce secteur a facilité l'inclusion financière et l'accès à l'information, améliorant les conditions de vie de ces populations. Par exemple, le système de paiement mobile M-Pesa au Kenya a révolutionné l'accès aux services financiers, avec plus de 25 millions de Kenyans utilisant le M-Pesa pour transférer de l'argent, payer des services et des biens, et même obtenir donc des microcrédits. De façon générale, à mon avis, les fintechs ont permis à des millions d'Africains sans banque d'accéder aux services financiers facilitant les transactions. Je pense que l'utilisation de ces plateformes va aussi accélérer et transformer donc la GLECAF qui est en cours de mise en œuvre. Il y a aussi la santé numérique, comme au Nigeria, où les applications de la télémédecine ont amélioré l'accès aux soins de santé, notamment dans les zones rurales. Et aussi, les plateformes de e-learning ont rendu l'éducation plus accessible, contribuant à l'élévation du niveau d'instruction. L'autre secteur de croissance, à mon avis, est le secteur des énergies renouvelables. L'Afrique a connu une forte croissance dans le secteur des énergies renouvelables, notamment grâce à l'essor des projets solaires, des projets éoliens, mais aussi des projets hydrauliques. Par exemple, le projet solaire Nour Ouarzazate au Maroc, l'une des plus grandes centrales solaires du monde, a permis d'améliorer l'accès à l'électricité, notamment dans les zones rurales. Le troisième secteur, à mon avis, de croissance, c'est l'agriculture et l'agro-industrie, qui demeurent aujourd'hui des secteurs clés des économies africaines. Et en 2024, ce secteur a bénéficié de nombreux investissements dans la mécanisation, les technologies agricoles, mais aussi les infrastructures d'irrigation. J'ai souvent cité le cas de l'initiative Digital Green en Éthiopie qui a permis aux agriculteurs d'accéder à des informations sur les meilleures pratiques agricoles via des plateformes numériques. Cela a permis aussi à changer des informations climatiques pour s'adapter aux variations climatiques et aux effets du changement climatique. Cela a amélioré les rendements agricoles, augmenté les revenus des exploitants et renforcé la sécurité alimentaire dans de nombreuses régions. Le quatrième secteur de croissance, à mon avis, reste le secteur minier et des matières premières. Comme vous le savez, les ressources naturelles, comme le pétrole, le gaz et les métaux précieux, continuent de jouer un rôle crucial dans les économies africaines. Cependant, la tendance s'est progressivement orientée vers une gestion plus durable et une transformation locale de ces matières premières-là. Par exemple, en RDC, l'exploitation du cobalt a stimulé l'industrialisation et les exportations. Et la croissance de ce secteur-là a permis à l'État de mieux financer ses infrastructures et des services publics, bien que des efforts supplémentaires soient nécessaires pour améliorer les conditions de travail et réduire les impacts environnementaux. L'avant-dernier secteur, à mon avis, c'est le secteur du tourisme qui constitue aujourd'hui, après la crise de la pandémie de la COVID, le moteur de croissance, c'est le tourisme, avec des destinations comme le Kenya, le Maroc, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Par exemple, en Afrique du Sud, la relance du secteur touristique a permis de stimuler l'emploi dans les hôtels, les transports et les services liés au tourisme. De plus, la croissance du tourisme a facilité donc le développement de petites entreprises locales et l'amélioration des infrastructures dans des zones autrefois moins développées. Et finalement, je terminerai par l'infrastructure et la construction, qui est un autre secteur important de croissance des économies africaines en 2024. Comme vous le savez, la construction de grands projets d'infrastructures comme les routes, les ponts et les aéroports ont connu véritablement une extension dans la région. Et ces projets ont pour objectif donc de réduire les obstacles à la mobilité, de stimuler le commerce intra-africain et d'améliorer les conditions de vie. J'ai cité l'exemple ici du grand projet routier Lagos-Ibadan, les deux grandes villes, par exemple, du pays, dotées d'une autoroute moderne qui relie ces deux grandes villes pour améliorer le transport de biens et de personnes.
Quels sont les principaux défis économiques auxquels le continent a été confronté notamment en termes d'inflation, de dette ou de chômage, et comment les gouvernements y ont-ils répondu?
Oui, l'Afrique a été confrontée à plusieurs défis économiques majeurs, notamment l'inflation, comme vous l'avez dit, la dette publique et le chômage. Par exemple, en ce qui concerne l'inflation, elle a été l'un des défis majeurs en Afrique en 2024. Plusieurs facteurs ont contribué à la hausse des prix, notamment l'augmentation des prix des denrées alimentaires, l'instabilité des prix de l'énergie et la dépréciation des monnaies locales par rapport aux devises étrangères. Par exemple, au Ghana, au Nigeria, l'inflation a atteint des niveaux alarmants avec des prix des denrées alimentaires augmentant fortement à raison de la dépréciation, pour le cas du Nigeria par exemple, du Naira ou du Cedi au Ghana, et des perturbations des chaînes d'approvisionnement. Au Nigeria, en réponse à cela, la Banque centrale a adopté une politique monétaire plus stricte en augmentant les taux d'intérêt pour tenter de contrôler l'inflation. Cependant, ces mesures s'étaient révélées un peu contre-productives sur la croissance, car elles ont réduit la consommation et les investissements. Les cas du Sénégal et de l'Égypte ont été emblématiques. Les gouvernements ont mis en place des programmes de subvention alimentaire et des initiatives pour soutenir les secteurs vulnérables. Cela a inclus des efforts pour augmenter la production agricole locale et diversifier des sources d'approvisionnement, réduisant donc ainsi la dépendance aux importations. En ce qui concerne la dette, on l'a toujours dit et redit, elle constitue un problème majeur pour la stabilité de nos économies en Afrique. Et dans beaucoup de pays, le niveau de vulnérabilité de la dette est assez inquiétant. Par exemple, le cas emblématique de la Zambie, où la dette extérieure a atteint des proportions insoutenables, forçant le pays depuis 2020 au défaut de paiement. En 2024, le pays a poursuivi des négociations avec les créanciers internationaux, dont la Chine, pour restructurer sa dette et éviter la crise économique. Et il a également mis en place un programme de réforme économique soutenu par le FMI visant à rétablir la soutenabilité de sa dette. Le cas du Kenya également a été un cas d'école où la gestion de la dette a été un grand défi en raison de l'endettement croissant pour financer ses infrastructures. Là, le gouvernement a mis en place des stratégies pour limiter les emprunts étrangers en privilégiant les emprunts domestiques et à lancer des initiatives pour améliorer la transparence dans l'utilisation des fonds. En ce qui concerne le chômage, là, c'est le nœud gordien des grands défis du continent où le chômage reste une problématique persistante, surtout chez les jeunes et les femmes. Le manque de création d'emplois formels combiné à une croissance démographique rapide aggrave le taux de chômage, en particulier dans les grandes villes où l'exode rural crée une pression supplémentaire sur le marché de l'emploi. Par exemple, en Afrique du Sud, en 2024, le taux de chômage a atteint le niveau record de 35%, n'est-ce pas? Et en réponse, le gouvernement sud-africain a intensifié les efforts pour améliorer la formation professionnelle et lancer des programmes de soutien à l'entrepreneuriat pour stimuler l'emploi. Au Maroc, par exemple, le gouvernement a aussi initié plusieurs stratégies dans les réformes du marché du travail visant à encourager la création d'entreprises et à mieux aligner l'enseignement avec les besoins du secteur privé. Et finalement, l'instabilité économique et les crises géopolitiques. Là aussi, c'est un problème qui est devenu structurel en Afrique. Par exemple, au Sahel, les conflits et les conflits armés et les crises Boko Haram, etc., ont installé une instabilité et aussi les coups d'État. Une instabilité dans la sous-région et qui perturbe effectivement l'économie. Et cette crise fait augmenter les dépenses publiques en matière de sécurité et limite les investissements étrangers. Les gouvernements dans ces pays-là ont dû adapter leur budget pour prioriser les dépenses de sécurité et qui a réduit les ressources allouées à d'autres secteurs essentiels comme l'éducation et les infrastructures.
À l'approche de 2025, quelles stratégies ou réformes devraient être prioritaires pour renforcer la résilience économique de l'Afrique, notamment face aux impacts du changement climatique et des crises mondiales?
Oui, à l'approche de 2025, pour renforcer la résilience économique de l'Afrique face aux impacts du changement climatique et aux crises mondiales, à mon avis, plusieurs stratégies et réformes doivent être mises en œuvre. Ces réformes devraient se concentrer sur, à mon avis, la diversification économique la transition énergétique, la gestion des risques climatiques ainsi que l'amélioration de la gouvernance et des infrastructures qui constituent un secteur d'appui à la production. D'abord, la transition vers une économie verte et durable. L'Afrique est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique, notamment à la variabilité des précipitations, à l'élévation du niveau de la mer et aux phénomènes extrêmes. Pour renforcer cette résilience économique, il est essentiel d'investir dans une transition verte et durable, développer des énergies renouvelables. On sait bien que nous disposons d'un potentiel énorme en matière d'énergie renouvelable, solaire, éolien, géothermique, etc. Mais ce secteur reste sous-exploité et les gouvernements devraient intensifier les investissements dans l'infrastructure énergétique verte, réduire les subventions aux énergies fossiles et encourager les partenariats publics-privés pour financer la transition énergétique. Il faut aussi investir dans l'agriculture durable. L'autre stratégie, c'est la diversification économique et la réduction de la dépendance aux matières premières. L'Afrique, malgré les efforts de diversification, reste largement dépendante des exportations de matières premières. Et cette dépendance la rend particulièrement vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux et aux chocs externes. Donc, les réformes prioritaires à mener dans ce domaine-là, c'est l'industrialisation et la transformation locale. À mon avis, il est crucial de promouvoir la transformation des ressources naturelles sur place. Cela inclut la création d'industries de transformation des produits agricoles et miniers pour ajouter de la valeur et générer donc des emplois. Il faut également continuer à investir dans les technologies et les innovations, comme je l'avais dit tantôt en répondant à la première question. Et à mon avis, l'autre secteur où il faut développer une stratégie, c'est continuer à renforcer la construction des infrastructures et développer la connectivité dans la région en améliorant les infrastructures résilientes au climat, mais surtout en développant des corridors de transport régionaux. Par exemple, le chemin de fer LAPSET qui relie le Soudan à l'Éthiopie ou le Kenya, l'Éthiopie, le Soudan du Sud, et représente un exemple de développement d'infrastructures interrégionales. L'autre corridor de l'Obito que Joe Biden a récemment inauguré en Angola, qui est une infrastructure ferroviaire moderne qui relie l'Angola à la Zambie. À mon avis, ce sont des modèles de projets développés sur le continent pour faciliter la connectivité, mais aussi la transformation de la ZECAP et la mobilité des biens et des personnes. Le quatrième secteur, c'est le renforcement de la résilience sociale et de la protection sociale. À mon avis, la pauvreté est très endémique en Afrique et les inégalités sont criantes. À mon avis, les gouvernements doivent investir volontairement dans les systèmes de protection sociale universelle pour réduire donc ces inégalités, les vulnérabilités et aussi investir dans l'éducation et le développement des compétences. Finalement, je pense qu'on doit s'engager dans des réformes fiscales et l'amélioration de la gouvernance. Et là, les réformes doivent s'articuler autour du renforcement de la mobilisation des ressources domestiques. La réforme de l'administration fiscale, la fiscalité domestique, mais aussi la lutte farouche contre les flux financiers illicites qui gangrènent donc nos économies.
Monsieur Ibrahima Aïdara, merci beaucoup pour votre expertise.
Merci Eric. Je vous remercie infiniment pour l'invitation.